podcast de la 14e édition du prix du livre environnement décerné par la Fondation Veolia. Cette initiative vise à soutenir, encourager et promouvoir les écrivains et les maisons d'édition qui œuvrent à sensibiliser les lecteurs aux enjeux majeurs de la planète. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'échanger avec Sébastien Boller, docteur en neurosciences et rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. Il a reçu le prix du livre Environnement 2019 pour son ouvrage Le bug humain, publié aux éditions Robert Laffont. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour.
Alors quel message avez-vous souhaité faire passer dans cet ouvrage ?
Alors, le message que j'ai souhaité faire passer dans cet ouvrage, c'est une interrogation sur l'homme, sur l'humanité qui est en train de s'aborder son propre navire. Quand on parle des échéances climatiques qui sont maintenant très bien détaillées par les rapports du GIEC, par énormément d'études scientifiques, et qu'on sait très bien ce qui va arriver, on parle d'une situation qui est à la fois connue et pas du tout maîtrisée. C'est-à-dire qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, tous collectivement, et on semble incapable de réagir. Donc, quelque part, il y a un échec de l'humain. L'humanité qui a réussi pendant des centaines de milliers d'années, qui se connaissait, l'histoire de l'évolution des humains, on allait vers toujours plus d'intelligence, soi-disant, toujours plus de perfectionnement, d'appareils, on a vaincu les maladies, on a vaincu la faim, même s'il en reste encore, mais globalement, notre sort s'améliore. Et là, on arrive devant une limite. Voilà. Et je crois que l'humanité doit faire son examen de conscience. C'est-à-dire, je ferai un parallèle avec ce qui peut arriver à une personne, à un homme, une femme, qui est dans l'échec répété, qui rate professionnellement, qui s'aborde systématiquement ses relations amoureuses, qui se comporte pas bien en famille, et qui se fait du mal comme ça, et qui à un moment se dit, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir un comportement qui me permette de m'épanouir ? Et cette personne, en général, va voir un psychologue, un psychiatre, va travailler sur soi, se dire où est le problème en moi. Et aujourd'hui, on est dans cette situation. L'humanité est en train d'échouer. Alors, on a une image de nous qui est très flatteuse. On s'est toujours situé au sommet des espèces, mais en fait, on est en train d'échouer. Et là, il est le temps de faire cette prise de conscience. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire en examinant le fonctionnement du cerveau humain. Parce que quand on dit que l'humain est le problème, le problème il est où ? À mon avis, il est dans son cerveau, parce que c'est à la fois un organe extrêmement puissant qui nous a permis effectivement de vaincre les maladies, de construire des cathédrales, de créer des symphonies fantastiques, de peindre la chapelle Sixtine, ok, très bien. Mais cet organe fantastique aujourd'hui est la source de notre fin annoncée quand même. Donc où est le bug ? Et c'est pour ça que ça s'appelle le bug humain. Et le message, c'est qu'il y a un problème dans notre cerveau. Il n'est pas du tout parfait. Il n'est pas adapté aux défis d'aujourd'hui, aux défis environnementaux. Parce que, certes, il est intelligent, grâce à sa partie la plus évoluée, qu'on appelle le cortex, qui s'est développé beaucoup dans l'espèce d'Homo sapiens depuis quelques dizaines de milliers d'années. Mais quelques dizaines de milliers d'années, c'est pas énorme, en fait. L'être humain, il existait depuis des millions d'années. Et pendant ces millions d'années, ce qui s'est d'abord développé, c'est pas notre cortex, c'est pas notre intelligence, c'est notre machine à désir. C'est une partie du cerveau plus profonde qui s'appelle le striatum. Et lui, il est incapable de changer ses désirs. Et ses désirs, ils sont très simples. Il y en a cinq que j'ai répertoriés dans le livre, là, qui sont liés à toujours à ce qui nous a permis de survivre, c'est-à-dire manger, se reproduire, acquérir du statut social dans un groupe, ce genre de choses qui ont été efficaces pendant un moment, mais qui aujourd'hui commencent à poser problème.
Et en quoi ce striatum, c'est un peu notre pire ennemi, très concrètement, hein, dans la vie de tous les jours, en quoi nous sommes vraiment guidés par lui?
Parce qu'il nous manipule avec du plaisir et avec une molécule qu'on appelle la dopamine. Et lui, il a été programmé donc, depuis très longtemps pour nous donner cette dopamine quand on fait des actes très simples, qui autrefois ont été un avantage pour survivre, mais qui aujourd'hui vont poser problème. J'ai expliqué très clairement. Tout d'abord, la première situation où notre striatum nous donne du plaisir, c'est quand on mange. Alors, bon, on comprend très bien pourquoi. Vous êtes un homme préhistorique, il y a 600 000 ans, dans la savane. Si vous voulez survivre, il faut attraper une proie, il faut la manger. Et surtout, comme vous n'êtes pas du tout sûr de pouvoir capturer un autre gibier avant... C'est pas possible à contrôler avant des semaines ou des mois. Dès que vous avez une opportunité, vous devez manger le plus possible. Surtout sans vous freiner. Donc le striatum, lui, il a jamais été prévu, entre guillemets, pour se limiter. Et tout ça, ça a marché très bien dans un environnement pauvre en ressources naturelles, où c'est difficile de trouver à manger. Mais aujourd'hui, le cortex cérébral intelligent est arrivé après. Il a créé toutes les technologies qu'on connaît. D'abord l'invention de l'agriculture, de la charrue, des pesticides, de l'élevage intensif, l'agriculture intensive, les OGM. Et aujourd'hui, on est capable de produire à manger sans limite. Mais lui, le petit striatum qui a été prévu pour ne pas se limiter, il continue. Il mange. Et il exploite les ressources de la planète. Et il nous rend obèses. Aujourd'hui, on meurt plus d'obésité. C'est l'OMS qui le dit, à la surface de la planète que de la faim dans le monde. Donc les courbes d'obésité s'envolent partout et l'agriculture intensive qui surexploite les sols aujourd'hui rend compte 20-25% des émissions de gaz à effet de serre. Et on est incapable de s'arrêter parce que ce qui pilote nos comportements, nos désirs, c'est ce besoin de striatum qui nous donne de la dopamine à chaque fois qu'on va, par exemple, au fast-food, à chaque fois qu'on pioche dans un sachet de chips et il est incapable de s'arrêter. Donc ça, premier comportement, manger. Mais si on se replace dans la logique de nos ancêtres en milieu naturel, la nourriture, c'est très bien pour survivre à court terme, mais pour survivre à long terme pour l'espèce, ce qu'il fallait faire, c'est transmettre ses gènes. Et ça, c'est la reproduction par le sexe. Et donc, le striatum, de nouveau, nous récompensait avec un shoot de dopamine à chaque fois qu'on avait des relations sexuelles. Et dans la logique de la sélection naturelle, vous savez comment ça se passe, c'est celui qui arrive le mieux à transmettre ses gènes qui finalement est retenu par la sélection naturelle. Et donc il y avait toujours une prime à celui qui pouvait avoir un peu plus de relations sexuelles que le voisin. Donc cette dopamine était libérée à chaque fois qu'on avait une multiplication des relations sexuelles. Alors si vous vous placez à cette époque-là, ça posait pas de problème parce que c'était limité par la taille des groupes humains, on était quelques dizaines d'individus qui vivaient dans un groupe, donc multiplier ces relations, ça voulait dire peut-être avoir une, deux, trois relations avec des personnes différentes. Mais aujourd'hui, on a inventé Internet, de nouveau grâce à notre cortex surpuissant, on a inventé les sites de rencontres, et puis les sites pornographiques, et puis ce striatum qui, lui, n'a pas été prévu pour se limiter, il se retrouve devant cette offre pléthorique, il ne sait pas s'arrêter, il clique. Par exemple, le visionnage aujourd'hui des vidéos pornographiques, c'est 136 milliards de vidéos par an, par l'humanité. Ça représente 35% du trafic sur Internet. Le trafic sur Internet a dépassé en émissions de gaz à effet de serre le trafic aérien. Donc ce petit mécanisme qui nous vient de la nuit des temps, aujourd'hui, il est en train vraiment de creuser notre tombe. Et voilà, la nourriture, le sexe, un troisième besoin essentiel qui est le besoin de statut social, on le comprend de nouveau si on se rapporte à notre lointain passé, avoir de l'importance dans un groupe humain, dans une tribu, c'était la garantie d'avoir accès à de la nourriture et des partenaires sexuels plus facilement. Donc là encore, à chaque fois que vous arrivez à grimper d'un échelon dans votre groupe d'hominidés ancestraux, vous aviez un shoot de dopamine pour votre striatum. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est fantastique. On peut tous avoir l'impression d'avoir du statut social grâce aux réseaux sociaux. Et donc, on passe son temps à cliquer. On est 2 milliards tous les jours à vouloir quelques likes, quelques visions en plus sur notre site personnel. Parce qu'à chaque fois, et on le voit en IRM aujourd'hui, à chaque fois qu'on a quelques likes en plus, par exemple, on a de la dopamine qui nous est donnée par notre striatum. Parce que lui, il n'a pas changé d'habitude. Il ne peut pas changer si vite. Lui, il s'est constitué sur des millions d'années. Il ne peut pas changer aussi vite. Donc, il continue. Il nous donne la dopamine. Et donc, on clique. On essaye d'avoir des likes. Et on voit aussi que dès que notre niveau de notoriété sur les réseaux sociaux se met à baisser, il ferme le robinet à dopamine, donc on est extrêmement frustré. Donc il faut y retourner. C'est la définition d'une addiction. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a la voiture aussi. Aujourd'hui, les ventes d'automobiles qui continuent d'augmenter, notamment les SUV extrêmement polluants, notamment en Chine où il y a un marché qui se développe, là-bas c'est très statutaire. Et l'automobile, c'est une façon de montrer qu'on a des moyens, qu'on a de l'importance, qu'on a un gros salaire, et puis on va trouver toujours un moyen d'être un peu mieux que le voisin grâce aux options suréquipées. Il y a toujours moyen. C'est pour ça que les constructeurs l'ont bien compris. La voiture suréquipée, ça vient stimuler notre striatum, et donc on ne s'arrête pas. Et l'automobile, on sait que c'est énorme aussi dans ce qui est en train de nous amener vers notre perte. J'ai cité que trois grands besoins, il y en a encore deux autres, mais bon.
Alors justement, comment empêcher notre cerveau de détruire la planète?
Alors, ça c'est la grande question. Et souvent les gens me disent, il n'y a qu'à l'enlever ce striatum, puisqu'il pose problème. On pourrait chirurgicalement le faire, mais alors c'est une très mauvaise idée, parce que sans striatum, tout s'arrête. Y a des personnes chez qui il est abîmé, par des accidents, des chocs ou des AVC. Et là ça donne quelque chose de très simple, c'est des personnes qui perdent tout désir. Parce que nos désirs, ils viennent de là. Donc, désir de manger, c'est fini. Alors déjà, c'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont plus l'idée de s'auto-alimenter. C'est pas qu'elles aiment plus manger. Si on leur met la nourriture dans la bouche, je trouve ça bon. Mais l'envie, Le désir de faire le geste qui fait qu'on va prendre ce qui est autour de nous n'existe plus. Donc, il n'y a plus de vie possible. Donc, le striatum, on en a besoin. C'est cette molécule qui nous incite finalement à nous lever le matin, à faire des choses à cause de c'est un aiguillon, hein, la dopamine, le plaisir. C'est essentiel. On ne peut pas faire sans. Donc, la question, c'est comment avoir cette dopamine d'une façon qui ne soit pas destructrice pour les générations futures, pour l'environnement. Alors, il y a quelques voies qui sont suggérées par les neurosciences et puis aussi par des grands courants comme la méditation de pleine conscience, par exemple, qui est beaucoup plus qu'une mode, à mon avis, qui vient répondre à un besoin, c'est justement d'utiliser les capacités de notre cortex, non pas à simplement construire des machines, qui aujourd'hui, c'est plus du tout l'avenir, mais à remettre de la conscience dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant de dopamine avec moins de stimulation, par exemple moins de nourriture, à condition d'avoir plus de conscience. Si vous mangez moins, mais que vous êtes plus présent à ce que vous faites, que vous détaillez plus les saveurs, là, la dopamine est libérée. À l'arrivée, vous avez aussi les mécanismes de satiété qui peuvent s'installer parce que vous avez pris le temps de le faire. Et là, on peut être heureux avec moins. Donc, on va appeler la sobriété heureuse. Mais ça suppose de se poser, de se calmer, de réinsérer les actes quotidiens non plus dans l'impulsivité, mais dans le temps long. Et ça, ça suppose une volonté personnelle, une discipline, et puis d'avoir les moyens de trouver le temps de le faire, parce qu'on est tous sous la pression du temps. C'est l'accélération des rythmes de vie qui est un phénomène sociologique maintenant tout à fait avéré, qui est très difficile d'en sortir, parce que c'est quelque chose de collectif qui nous met tous à la pression quotidiennement dans notre travail, dans les transports, dans la gestion du quotidien à la maison, les enfants, les horaires, tout se resserre, donc c'est très dur. Donc il y a une réflexion systémique à avoir sur le temps qui est disponible pour justement refaire de la conscience, c'est l'avenir de l'humanité quand même, la conscience. Donc ça, c'est une première voie, par la conscience. La deuxième, c'est l'altruisme quand même. C'est-à-dire qu'un des gros problèmes qui nous pousse toujours vers plus de consommation et de production, c'est le désir de s'élever au-dessus des autres, on en a parlé. C'est le désir de pouvoir, c'est le désir d'accumulation. C'est un réflexe qui est devenu partie vraiment intégrante de notre comportement. Alors qu'une autre voie serait possible, c'est plus le partage. Et là, il y a quelque chose d'encourageant, c'est que quand on donne, quand on partage, on peut aussi provoquer cette activation de notre striatum et cette libération de dopamine. Ça a été observé dans des IRM, dans l'université de Zurich, il y a 2 ans, dans des expériences qui sont assez éclairantes, parce que le principe est très simple. Vous donnez une somme d'argent à des sujets dans une expérience, dans un laboratoire, et vous leur laissez le choix, vous leur dites soit vous gardez l'argent pour vous, soit vous vous partagez avec un inconnu que vous ne verrez jamais, donc vous n'aurez même pas non plus le plaisir de la réciprocité, c'est vraiment du pur altruisme. Mmh. Et là, vous voyez des comportements très différents déjà entre les hommes et les femmes. La première chose, c'est qu'en majorité, dans ces expériences, les hommes avaient tendance à garder l'argent pour eux et à avoir de la dopamine comme ça, en gardant l'argent pour eux. Déjà, ça fait réfléchir. Et les femmes, en revanche, il y en avait plus des 2/3 qui choisissaient de partager. Et que cet acte de don n'était pas quelque part une frustration, puisqu'on voyait aussi la libération de la dopamine dans la même région du cerveau. Donc ça a été un sujet d'étonnement pour les chercheurs. Ils se demandaient comment c'est possible quand même, l'altruisme, ça coûte. Ben non. D'ailleurs, on peut se demander si c'est encore du vrai altruisme. Alors moi, j'ai posé la question à Mathieu Ricard, vous savez, qui travaille beaucoup là-dessus. Il m'a dit, mais c'est pas parce que ça fait plaisir que c'est pas altruiste. Il faut arrêter de voir les choses comme ça. Si ça nous fait du bien aussi à nous, ça veut dire que l'autre et nous-mêmes, on est connectés. Donc, c'est très bien. Donc, n'ayons pas peur d'avoir du plaisir en donnant. Et la question qui se posait, c'est pourquoi les femmes et moins les hommes? Alors, les premières hypothèses, c'était que c'était peut-être lié au chromosome, au X, Y, les différences hormonales. Alors, il y a peut-être de ça, mais l'effet le plus profond qui a été retenu, finalement, c'est de voir que c'est lié à l'éducation et qu'on encourage, en fait, les petites filles depuis leur plus jeune âge. On le voit dans toutes les sociétés patriarcales, c'est-à-dire la majorité, quand même, des sociétés dans le monde entier, encore aujourd'hui, qu'une petite fille qui partage, on l'encourage, on la félicite, donc on lui donne du statut social. Et le statut social, c'est peut-être le plus puissant des stimulants de notre système à dopamine. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire si on donne du statut social à quelqu'un quand il partage, on va créer cette libération de dopamine. Et ce qui se passe aujourd'hui encore, c'est qu'on vit encore dans un monde où quand on se dit « qu'est-ce qui me donne du statut ?» c'est quand même mon salaire, c'est ma réussite personnelle, c'est tout ce que je vais pouvoir faire moi. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le discours social dominant va accorder du prestige et de la reconnaissance à ceux qui donnent, à ceux qui partagent, à ceux qui vivent dans la sobriété, là, on va changer la donne. Et ça veut dire que tout le monde doit s'y mettre, hein, c'est-à-dire les parents, les professeurs, les journalistes, le discours ambiant. C'est-à-dire qu'on doit voir en prime time le soir, non pas des gens qui ont réussi à faire de l'argent, mais des gens qui ont réussi à en donner.
Alors, le bug humain a obtenu le prix du livre environnement. Que représente ce prix pour vous ?
Ce prix, pour moi, ça représente alors plusieurs choses. D'abord, ça me donne de la dopamine dans mon striatum. Ça me donne un peu de statut, ça
mais
fait plaisir.
Mais est-ce que c'est aussi l'opportunité de toucher les gens?
Oui, oui. C'est une façon de diffuser le message. C'est très important. Puisque quand vous avez comme ça des acteurs de l'économie et de l'environnement qui s'engagent sur cet examen de conscience qu'on doit tout faire collectivement, ça veut dire qu'on va pouvoir s'y mettre à plusieurs aussi. L'eau, c'est un enjeu d'avenir. Si on engage la réflexion sur ces richesses du futur à partir de la grille de lecture que je propose, moi je trouve ça très encourageant. Moi je rencontre aussi dans les organisations beaucoup de gens qui ont des points de vue différents et de plus en plus de personnes qui se posent la question du sens de l'engagement professionnel et des actions économiques et industrielles. Donc ça, c'est un signe encourageant. Voilà. Et j'aimerais que le message se diffuse à travers ces canaux-là. C'est le signe que, quelque part, il y a l'envie de promouvoir ces questions-là, et pas seulement sous l'angle de la culpabilisation des personnes qui ont le pouvoir, mais sous l'angle aussi de se dire qui sommes-nous tous dans nos comportements au quotidien, utilisateurs de l'électricité, utilisateurs de l'eau, comment est-ce qu'on fonctionne quand on ouvre un robinet, comment est-ce qu'on fonctionne quand on allume une lumière, et se dire ah, là, il y a mon petit striatum qui est toujours prêt à me tendre un piège. Et s'observer en situation, ça peut tout changer.
Merci Sébastien Boller pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre livre, Le bug humain, publié aux éditions Robert Laffont.
Merci.
Merci à vous.
Veolia, alors c'est un acteur de l'aide au développement et l'humanitaire d'urgence, l'emploi et l'insertion, et la protection de l'environnement et la biodiversité.